Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce libre journal des amitiés françaises. Comme à l'habitude, deux parties. Nous recevons tout d'abord Jérôme Godeau, qui était écrivain, historien de l'art, qui vient nous présenter une exposition actuellement au musée Bourdel, le très beau musée Bourdel, consacré à l'œuvre d'une artiste polonaise, Magdalena Abakanowicz. Et c'est aussi l'occasion, ça sera la toute première partie de cette discussion, d'évoquer et la vie de ce grand sculpteur qui était Bourdel, mais aussi le musée Bourdel où des restaurations et des travaux ont eu lieu, et cet endroit, rendant cet endroit encore plus beau et plus émouvant qu'il ne l'était avant ces travaux. Et Jérôme Godeau va donc parler donc et de Bourdel, et du musée, et de cette exposition en cours jusqu'au 12 avril 2026. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à 19h30, nous avons le plaisir de recevoir Marianne Vanier, qui est professeur d'université et qui vient nous parler d'un ouvrage, une œuvre collective qui s'appelle Orient-Occident. Orient-Occident, c'est la relation des rencontres de carrefour de l'histoire religieuse qui a eu lieu cette année au monastère de Chèvetogne. C'est en Belgique. C'est un monastère très particulier. Alors, Orient-Occident, le thème, bien sûr, de cette université d'été, c'était la relation entre la religion catholique et la religion orthodoxe, dans un but d'œcuménisme, et ça se tenait dans ce monastère très particulier, vous allez le découvrir avec Marianne Vanier, qui est ce monastère de Chèvetogne, où les moines bénédictins pratiquent selon les rites slavons orthodoxes et selon les rites latins. C'est assez extraordinaire, et donc Marianne Vanier va nous parler à la fois de cette rencontre Orient-Occident et de ce monastère extraordinaire qui fêtait d'ailleurs en 2025 son centenaire. Nous abordons maintenant la première partie de cette émission. Je rappelle, chers auditeurs, que Laurent est au standard. Il sera ravi de prendre vos messages, vos questions que nous proposerons à nos invités. Je rappelle le courrier électronique de la radio, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr ou par téléphone 01 46 51 00 85. N'hésitez surtout pas, Laurent sera très heureux de répondre à vos appels. Nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission. Et les musées ou les maisons d'artistes les plus émouvants sont ceux qui semblent toujours habités par l'âme de leurs derniers occupants. Il en est ainsi d'un des plus beaux d'entre eux, un des plus beaux musées parisiens d'ailleurs, qui regroupe l'habitation de l'artiste, l'atelier, un jardin aussi dans un lieu très dépaysant situé en plein Paris, dans le quartier Montparnasse. Émotion, culture, beauté se sont ainsi donné rendez-vous dans cet endroit unique qu'est le musée Bourdel, où a travaillé, a sculpté notre grand sculpteur de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Une magnifique restauration vient de se tenir, complète et respectueuse, vient justement d'être achevée. Son résultat est saisissant et mérite notre visite. Ce nouveau, entre guillemets, musée Bourdel nous offre ainsi une promenade poétique, pleine de charme, entre sculpture, architecture et peinture. Eh bien, cette visite ce soir, nous allons la commencer parce que vous la poursuivrez, bien sûr, chers auditeurs, dans ce beau musée. Eh bien, ce soir, nous la commençons en tout cas en compagnie d'un spécialiste de Bourdel, grand connaisseur de ce musée où il a travaillé pendant de nombreuses années. Et il s'agit bien sûr de Jérôme Godeau, que nous avons le plaisir d'accueillir au terme de Autre raison aussi de cette émission, c'est qu'il est commissaire scientifique d'une intéressante, surprenante, mais intéressante exposition.
Vous avez fait des progrès, je vois que...
Une exposition qui est consacrée à l'œuvre très contemporaine. d'une grande artiste polonaise qui s'appelle Magdalena Abakanowicz. Le titre de l'exposition, c'est « La trame de notre existence » et vous verrez effectivement pourquoi elle est baptisée « La trame de l'existence ». Ce sont des sculptures très, très particulières et notre invité Jérôme Godeau, justement, je le disais, on est donc le commissaire scientifique et il va nous présenter en fait cette exposition. Nous avons donc le plaisir de recevoir, chers auditeurs, Jérôme Godeau. Jérôme Godeau, bonsoir.
Bonsoir Thierry, merci de nous accueillir et merci d'accueillir le musée Bourdelle, puisque je représente, si j'ose dire, le musée Bourdelle. Et d'ailleurs, c'est un peu un monastère en fait. Vous avez annoncé l'émission avec Marianne Vanier autour de ce monastère. Quand on rentre à Bourdelle, on est un peu, les musées sont un peu des enclos de résistance temporelle. Et finalement, il y a quelque chose d'assez religieux, parce qu'en fait, c'est très méditatif. C'est un endroit très méditatif, et quand on entre là, on est vraiment dans un hors-temps, et je crois que c'est encore un musée où il y a une possibilité de silence, on peut se poser, on peut regarder, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méditation, donc c'est très précieux qu'il existe encore des lieux qui soient non pas des lieux de consommation culturelle, enfin, je ne crache pas du tout là-dessus, mais ces musées-là qui sont, comme vous le disiez, des maisons d'artistes, il y a une forme d'ancrage et de méditation. Et puis c'est une vie de travail. Et quand vous êtes dans un atelier d'artiste, en fait, ce sont des lieux où on a cessé d'expérimenter la matière, de s'y confronter et de s'y colter. Et ce que l'on sent, c'est il y a quelque chose de studieux là-dedans et donc de fervent. Au fond, les musées peuvent être des lieux de ferveur. C'est un lieu de ferveur.
Et d'ailleurs, quand on rentre dans le musée Bourdelle, on commence par le cloître.
C'est une forme de cloître d'ailleurs. Et après, il y a un jardin intérieur qui tient aussi lieu du cloître. Donc, on rentre vraiment dans un autre espace et dans un autre temps.
Et c'est un lieu extraordinaire, exceptionnel, en plein Paris, extrêmement dépaysant. Et nous allons le voir avec vous. Vous y avez œuvré. Et notamment, c'est ce que j'ai découvert, c'est que dans ce musée, nous allons bien sûr parler du cloître, hein, le cloître d'entrée. Nous allons parler de la maison de Bourdelle, de son atelier, parce que cet endroit regroupe tout cela, mais aussi du jardin. Du jardin qui est un endroit alors, aussi extrêmement dépaysant, un jardin intérieur tout en longueur, et que vous avez, vous, aménagé en tant que jardinier. Quand j'ai découvert ce talent de Jérôme Godeau, vous êtes aussi jardinier, et donc là, jardinier en chef.
En fait, c'est d'une part avec Catherine de Bourgoin, qui elle, a très longtemps travaillé au musée de la vie romantique et qui a en somme inventé le jardin du musée de la vie romantique. Et puis l'ancienne directrice du musée Bourdelle, Amélie Simier, qui préside désormais au destiné du musée Rodin. Mais entre Amélie, Catherine et moi, nous avons effectivement un peu inventé ces jardins et on a l'impression qu'ils ont toujours été là et c'est ça la réussite. Encore une fois, ce sont des lieux d'enracinement. Oui. Parce que du temps de Bourdelle, tout ça, c'était des ateliers d'artistes. C'était un peu de bric et de broc. Hein. C'était beaucoup plus, j'allais dire, la vie était à la fois plus difficile. On entassait les sculptures à l'intérieur. C'était des lieux de travail. Donc, il y avait plein d'ateliers d'artistes avoisinants. Et puis, Bourdelle arrive là en 1885. Il est mort en 1929. Il a vécu et travaillé là toute sa vie. Alors, même si après le succès venant, il a eu un appartement de boulevard du Montparnasse, mais en fait, c'est son atelier et l'atelier de sculpture, enfin le premier atelier où il s'installe en 85, on a l'impression que rien n'a bougé. En tout cas, ce qui n'a pas bougé, c'est la lumière.
C'est extraordinaire.
Ça, c'est très beau. C'est très beau. Il y a un côté un peu chapelle. D'ailleurs, les visiteurs sont toujours un peu surpris quand ils entrent là.
Mais il va falloir aussi nous expliquer, Jérôme Godeau, comment vous faites pour faire fleurir les rosiers au mois de février.
Non, mais ça, je ne suis pas...
c'est vraiment incroyable.
Je suis pas
dans ce jardin intérieur, il y avait un rosier en fleurs.
Je ne suis pas responsable de la météo, Thierry. Donc là,
c'est
l'inépuisable ressource de la nature. Là.
Alors, je vous présente quand même à nouveau aux auditeurs de Courtoisie, parce que nous avons eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises, justement, pour ces belles expositions au musée Bourdelle, expositions que vous organisez. Et je rappelle donc aux auditeurs que vous êtes écrivain, que vous êtes historien de l'art, que vous avez travaillé pour plusieurs musées de la ville de Paris comme commissaire d'exposition. Citons, vous l'avez mentionné, le musée de la vie romantique, le musée Zakine, et puis surtout, bien sûr, le musée Bourdelle. Ouais. Vous avez été directeur de collection aussi chez Actes Sud. Vous avez publié d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages qui sont intéressants, qui sont liés à... Je les cite, hein, c'est Les Mots, le premier, et puis Promenade, le Promeneur de Paris.
Le Promeneur de Paris, oui.
Et Les Mots et Promeneur de Paris, quelques mots sur lequel de lire sur ces ouvrages et cette collection.
Mais c'était surtout pour mettre en valeur le fond des collections. Le principe des mots, c'était très simple, c'était en 60 définitions, donc vous aviez... Il y a eu les mots du jardin, les mots du voyage. Enfin, c'était une manière de cerner la richesse des collections municipales et de choisir à la fois une œuvre ou un détail et puis la conjonction de tous ces mots, de ce vocabulaire poétique, finissait par faire un ensemble qui pouvait être extrêmement évocateur. Et puis, c'était très joli. Donc, la plupart de ces titres sont épuisés aujourd'hui, mais c'était une façon, encore une fois, c'est comme une exposition. Mmh. C'était le désir de transmettre.
Et Promeneur de Paris, c'est...
Le Promeneur de Paris, c'était un clin d'œil à Léon-Paul Fargue et aux piétons de Paris. Et c'était la rive droite et la rive gauche. Il y avait 12 promenades à chaque fois. Et c'était vraiment le... Là aussi, Paris, c'est une ville merveilleuse et c'est une sédimentation. Donc, on passe à travers les siècles, à travers les références, les émotions. L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient. Donc, c'était autour de ça.
Et ça n'a pas été hérédité, Promeneur de Paris. C'est toujours très intéressant, ces guides promenades culturels, historiques.
Si j'ose dire, c'est le cas. Ça a très bien marché.
Oui.
Mais c'était très, très joli. C'était très joli. C'était très évocateur. Très évocateur. On prenait finalement le piéton, j'allais dire, ou le promeneur à la fois par la main et par l'esprit. C'est toujours très difficile de voir. Ça s'apprend de regarder.
Et
la sculpture, d'ailleurs, c'est difficile à regarder. C'est difficile à regarder parce que la sculpture, c'est un peu comme la ville, c'est une question d'espace. Donc, il faut que vous tournez autour d'une œuvre et vous vous demandez ce que vous voyez. Et ça fait référence à votre propre corps dans l'espace. Donc, je crois que la sculpture est un art très métaphysique. Ça dit quelque chose du mystère de notre incarnation qui est... c'est le mot magnifique de Rilke. Cette chair qui nous est confiée et qu'il faudra rendre. Alors peut-être le plus tard possible, je ne sais pas, mais en tout cas, ça dit quelque chose du mystère de la présence.
Ce mystère, vous allez nous l'expliquer ce soir, et plus particulièrement pour l'exposition consacrée à Magdalena Abakanovic, parce que c'est vrai, vous avez raison, nous avons besoin, enfin, en règle générale, pas tous, mais les Béotiens, nous avons besoin qu'on guide un peu notre regard, qu'on attire notre attention. C'est tout l'intérêt aussi, je trouve, de ces guides promenades.
On a tous
ces
besoin
itinéraires promenades que vous évoquez. Et puis dans les expositions, dans les musées aussi, il y a toujours plus de relief lorsque on attire votre regard sur un point qui vous a échappé, devant lequel vous allez passer sans faire trop attention. C'est important.
Mais c'est que le métier finalement de commissaire d'exposition ou de conservateur, c'est vous êtes là finalement pour transmettre, essentiel, à la fois pour conserver, pour transmettre et pour faire part de ce que vous avez perçu et compris. Ça ne signifie pas du tout que c'est une leçon, mais c'est une manière d'attirer l'attention sur ce que vous avez, ce sur quoi vous avez travaillé. Et l'essentiel de mon métier, ce que j'ai aimé, c'était justement toujours d'être l'impression d'être un intermédiaire.
En tout cas, nous comptons bien sur vous ce soir pour l'être, avec Bourdelle d'une part, et puis d'autre part avec Magdalena Abakanovic et cette exposition, La Trame de l'Existence, que le musée Bourdelle propose jusqu'au 12 avril 2026. Donc il y aura trois parties même principales à cette discussion. Je vous propose en un premier temps que vous nous rappeliez qui est Bourdelle, sa vie, son style, ses œuvres, comment tout cela a évolué. Et puis après, nous visiterons en votre compagnie le musée proprement dit, qui est absolument magnifique et encore plus beau depuis qu'il a en effet été restauré. Et notamment, je pense à la salle des plâtres, c'est extraordinaire.
Ça, c'est la nouvelle directrice, Sophie Ferlier-Bouac, qui est une jeune femme... à la fois ravissante, brillante, boulonneuse. Enfin, c'est la très grande trempe. Et en fait, le hall des plâtres, c'est vraiment remarquable.
Ah oui, c'est formidable.
C'est remarquable parce que c'est tout le Bourdelle monumental. Parce que si on veut retenir une chose de Bourdelle, c'est le sculpteur du monumental. Ça, c'est certain. C'est un architecte.
Alors c'est une question que j'aimerais vous poser d'ailleurs. Vous, ce qui vous touche le plus, hein, toutes ces années passées chez Bourdelle, il a fait des œuvres monumentales, en effet. Et puis, telles qu'elles sont exposées, les plâtres sont exposés dans cette fameuse salle des plâtres. On en trouve aussi dans les jardins, vous les exposez aussi là,
ça, ce sont les bronzes,
forcément.
C'est l'autre, mais voilà. le plâtre, finalement, dans, le, dans la sculpture, le plâtre, c'est... Vous avez, on commence par modeler de la terre, ensuite il y a un agrandissement, après vous prenez des moules, ensuite vous avez des plâtres, et à partir du plâtre, vous allez prendre, pouvoir prendre un moule du plâtre pour couler un bronze. Donc la sculpture, c'est un art du multiple. Mais effectivement, le hall des plâtres réunit les grandes figures monumentales de Bourdelle, dont, bien sûr, la frise du Théâtre des Champs-Élysées et les bas-reliefs du Théâtre des Champs-Élysées. Et ça, je pense que c'est probablement le couronnement de la carrière de Bourdelle. C'est une des plus belles choses qu'il ait faites.
Et que l'on peut admirer, en effet, oui. Quand on rentre dans le cloître, hein, il y a, en effet, ces bas-reliefs.
Mais c'est en bronze. Donc ça,
ils sont en bronze.
C'est un tirage posthume, c'est un tirage fait.
Mais on les trouve aussi dans la salle des plâtres. Hein,
alors,
en plâtre, pour le coup.
Oui, mais parce que là,
qu'on a les deux.
Là, on est au plus proche, j'allais dire, du...
C'est ce qui vous touche le plus, parce que finalement, Bourdelle, quand on visite ce musée, on va rentrer, bien sûr, hein, dans la vie de Bourdelle, naturellement, avec vous. Mais Bourdelle, effectivement, il y a à la fois des œuvres monumentales, telles qu'on peut les admirer au musée. La plus monumentale étant celle du général... Pas du général Cazard.
Faut confondre avec Tintin, là.
Non, mais j'avais un peu pensé à ça, quand même. C'est pas très respectueux de dire cela. Mais ce grand général...
Alvéar, qui était...
Alvéar, c'est ça, ouais. C'est pas Alcazar. Alvéar, c'est un Argentin, Alvéar.
Oui,
je crois,
absolument.
Hein.
Bah, on
cette statue, cette culture se trouve à Buenos Aires.
Absolument, mais c'est une commande, et en fait, elle devait d'ailleurs être réalisée. Elle a été retardée à cause de la guerre, mais c'est une des grandes commandes monumentales de Bourdelle. Je comprends que vous puissiez être moins touché par ça, parce que c'est peut-être plus difficile, mais ce qui est vraiment beau, c'est ce que Bourdelle a fait au Théâtre des Champs-Élysées. Ça, c'est magnifique.
C'est magnifique
parce que c'est vraiment, à la fois, c'est de la sculpture moderne et en même temps, c'est vraiment l'héritage de la sculpture grecque archaïque. D'ailleurs, Bourdelle disait à un moment, la sculpture, c'est de l'architecture. Et il faut que le mur garde son aplomb et son architecture de mur. Donc, il faut animer le mur sans on en sortir vraiment. Et quand on voit, la lumière est très belle et elle change au fur et à mesure de la journée puisque c'est la lumière du nord, donc c'est une lumière stable. Mais... Donc les reliefs ou les bas-reliefs s'animent très progressivement et ils font corps vraiment avec la simèse sans en sortir vraiment. Donc on est vraiment dans quelque chose de... Oui, il y a quelque chose de religieux là-dedans, mais les grands exemples qu'il avait, c'était ça et la sculpture médiévale. Et quand vous voyez la sculpture médiévale, quand vous voyez les cathédrales, la sculpture fait corps vraiment avec l'architecture.
Nous allons parler justement du modèle stylistique de Bourdelle. Est-ce que c'est l'archaïsme grec, comme c'est évoqué? Est-ce que c'est la sculpture romane? Notamment dans son atelier, il y a un très beau Christ roman qui est vraiment superbe. Mais il y a aussi une grande sculpture que vous proposez, qui est d'ailleurs à la fois dans la salle des plâtres en plâtre, et en bronze dans le jardin dont nous parlions, et que l'on retrouve aussi, on en retrouve un exemplaire au musée Maurice Denis, qui est cette grande vierge avec un enfant en offrande. Et Maurice Denis a aimé énormément justement cette sculpture.
Ils ont travaillé ensemble, hein, Bourdelle et Denis, au Théâtre des Champs-Élysées, et c'est vrai que Denis a écrit un très beau texte. Enfin, Denis était vraiment un sculpteur très profondément chrétien. Je ne sais pas si Bourdelle était un... Mais Bourdelle avait une admiration pour la sculpture médiévale. Dans l'art moderne, ce qu'on appelait l'archaïsme, il était fait, entre autres, du retour à la sculpture médiévale. Et tous les gens comme Zadkine, des gens comme Brancusi, ont tous regardé la sculpture médiévale, notamment les statues-colonnes. Donc l'idée vraiment de ces volumes qui sont à la fois qui s'élancent et qui font corps avec l'architecture des cathédrales. Mais ça, c'est aussi la leçon de Rodin. Donc, cet héritage-là, c'est la grande tradition de la sculpture à laquelle on va revenir et qui n'est pas une sculpture réaliste ni académique. Qui est c'est un peu comme si c'était un contenu de force.
Alors, justement, la première question que je souhaitais vous poser, c'était... Pourquoi continuer à s'intéresser à Bourdelle? Pourquoi continuer à admirer ses œuvres? Est-ce que justement c'est pour cette sculpture monumentale? Et puis le corollaire de cette question, c'est il a fait aussi on voit toutes ces têtes, par exemple, de Beethoven, donc vous en proposez une partie qui sont des plus petites, bien sûr, des œuvres plus petites. Et puis, il y a aussi d'autres œuvres très touchantes, beaucoup plus petites. Pourquoi faut-il toujours s'intéresser à ce sculpteur de la fin, donc, je le rappelle, de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle? Est-ce que, justement, c'est pour cette sculpture, ces sculptures monumentales, ou encore c'est pour toute son œuvre? Et puis, vous, Jérôme Gonod, qui connaissez parfaitement ce musée et l'œuvre de Bourdelle, mais... qu'est-ce qui vous touche le plus, justement?
Je crois que ce qui me frappe chez cet homme, c'est sa manière tout le temps de chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui... Il a cherché tout au long de sa vie. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il soit vraiment à la frontière. C'est-à-dire qu'il... C'est à la fois c'est une sculpture de transition, donc c'est la fin du 19e et c'est les années jusqu'au dans les années 20. Et c'est vraiment l'émergence de l'art moderne. Et c'est un art qui, justement, fait la jonction entre des formes d'art, entre guillemets, plus primitives, parce que l'archaïsme grec, c'est finalement le souvenir de tous les couroïs. Vous voyez, ces statues grecques beaucoup plus frustes, enfin... entre guillemets, en tout cas beaucoup plus dans le traitement des volumes, à la fois plus rigides et plus architecturés, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va appeler l'académisme, qui est, et puis le retour effectivement à la sculpture médiévale, et puis cette élaboration, c'est toujours en même temps la question du corps. Je crois que Bourdelle s'est très profondément penché, comme les grands sculpteurs, sur qu'est-ce que c'est que le corps. Il disait d'ailleurs « le corps est une architecture ». Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il avait hérité de Rodin. La grande différence entre Rodin et Bourdelle, puisque Bourdelle a été le praticien de Rodin pendant 14 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, je ne trahis pas un secret en disant que les marbres que l'on voit de Rodin n'ont jamais été sculptés par lui. Donc, il avait des praticiens. Parmi les praticiens, il avait Bourdelle. Parce que Bourdelle était à la fois un modeleur et un tailleur. Donc... Et il avait effectivement le sens de l'architecture. Donc Bourdelle a toujours pensé que le corps était un mystère et qu'il fallait essayer de... Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce qui fait tenir un corps debout, en fait? C'est comme s'il avait fallu mettre à nu l'architecture interne. Quand finalement, à chaque fois que vous croisez un être dans la vie, il a une stature particulière. Il occupe l'espace d'une manière particulière. C'est-à-dire que son volume... définit l'espace sur un mode propre. La manière dont nous appréhendons l'espace les uns les autres, c'est notre corps et c'est la confrontation avec le corps d'autrui. Donc, c'est autour de ça que les grands sculpteurs travaillent. Ils se disent, mais quand j'ai un corps sous les yeux, si j'ose dire sans mauvais jeu de mots, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vois? Comment est-ce que je l'approche? Comment est-ce que je tourne autour? Comment est-ce qu'il occupe l'espace? Et qu'est-ce qu'il nous dit finalement de la présence humaine? Et Bourdelle a travaillé là-dessus. Et c'est, je pense que ce qui fait vraiment la beauté de cette œuvre, c'est cette recherche absolument constante pour approcher le corps sur toujours au plus proche. Et donc, sa manière de pratiquer, sa manière de sculpter évolue. Elle change. Encore une fois, parce qu'il cherche, c'est-à-dire qu'il n'implique pas une recette.
Et il y a une grande différence entre ce... On va parler bien sûr de sa jeunesse, le style de sa jeunesse avec... ses toutes premières œuvres. Hein. Vous allez bien sûr en évoquer certaines. On pense à cette œuvre aussi saisissante du monument aux morts de Villemotoban. Est-ce qu'il y a un gros changement de style entre ce moment et la fin de sa vie?
Parce que le monument aux combattants de Montauban, d'abord, c'est un monument, qui commémore une défaite. Parce que c'est 70.
C'est 70, hein, oui, c'est pas 14. Hein.
C'est pas 14.
C'est sa jeunesse, oui.
Et ça pose aussi la question, est-ce qu'on peut faire du beau avec de la destruction? Puisque c'est un monument, est-ce que la guerre, est-ce qu'il y a une beauté de la guerre? Puisque la guerre, grosso modo, c'est quand même le désir de prendre le territoire de l'autre et donc de détruire l'adversaire. C'est la logique de la guerre. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'architecture avec de la décomposition? Puisque ça tourne autour de ça. Et c'est une forme d'expressionnisme, c'est un monument très saisissant. Et je pense que dans le parcours, il est très... Parce qu'on ne peut pas présenter le monument définitif, de toute façon, il est à Montauban.
On peut le voir à Montauban, en effet. Enfin,
On présente des fragments, et c'est vraiment saisissant. Et là, on est encore très proche de la leçon de Rodin. C'est-à-dire que ces corps musculeux, ces corps qui sont en train de... Puisque c'est l'assaut, le combat et la mort, les têtes hurlantes, les guerriers mourants, c'est absolument saisissant. Il y a une très grande beauté, mais c'est la mort au travail. Et ça prend particulièrement... Mmh. Enfin, de toute façon, la guerre est une... La guerre n'aura jamais de fin. Parce que c'est un état, ça dit quelque chose du combat de vivre, et donc ce sera sans fin. Et je crois que c'est autour de ça qu'il interroge.
Mais justement, son style, c'est très expressif, en effet.
Ça,
ce monument, c'est impressionnant. C'est un monument de bruit et de fureur, en quelque sorte.
C'est ça. C'est le bruit et la fureur.
Et d'ailleurs, consacré une exposition très intéressante, d'ailleurs, à ce monument. Et la fin de sa vie, il y a pourtant des œuvres qui sont aussi. Sur la mort, c'est le centaure mourant, par exemple, qui a veillé. C'est très émouvant, parce que le centaure mourant veille le cercueil de Bourdel. Hein.
Et là, on est en même temps dans une expression plastique tout à fait différente.
Oui.
Tout à fait différente, parce que le monument à Montauban, on est dans une forme d'expressionnisme.
Mmh.
Et si vous pensez si vous pensez à toute la peinture allemande, à Max Beckmann, et même si vous pouvez penser à Guernica, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire c'est l'éclatement. Le centaure mourant, c'est autre chose. Le centaure mourant, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il est à la fois... Alors Bourdel disait, il meurt comme tous les dieux parce qu'on ne croit plus en lui. Mais ce n'est pas vrai, parce que Bourdel n'a jamais cessé de croire à la puissance du mythe. Vous savez, Gerfagnon disait le mythe, c'est trois choses. C'est la lutte pour le territoire, c'est la lutte pour le fruit du territoire et c'est la conquête des partenaires sexuels. En fait, c'est la pulsion. Et c'est depuis l'aube du monde jusqu'à la fin des temps, ce sera ça. C'est-à-dire, c'est la lutte pour survivre, quoi qu'il arrive. Et vous ne pouvez pas faire l'économie de ça, puisque de toute façon, c'est la réalité de la présence humaine. Et le centaure mourant dit ça.
Mmh.
Il dit ça à la fois... Il s'écroule et en même temps il s'élève. C'est les deux en même temps. Et ce qui est très fort, c'est que plastiquement, il arrive à montrer à la fois cet abandon. Donc c'est vraiment comme s'il retournait à la terre et en même temps il s'élève.
Et précisons-le, il est superbement exposé, ce centaure mourant, son plâtre, en tout cas, dans la fameuse grande... Nous allons bien sûr rentrer dans ce musée après avoir parcouru, grâce à vous, la vie de Bourdel. Mais c'est vrai qu'il y a vous proposez ce centaure mourant donc en plâtre dans la salle des plâtres, c'est extraordinaire. Hein,
Il
a la place vedette, en quelque sorte, de cette grande salle... Art déco. Alors, je reviens quand même à ma question avant que nous revenions à la ville de Bourdel, Jérôme Godot, si vous le voulez bien. Votre préférence, qu'est-ce qui vous touche le plus dans toutes ces œuvres? Donc le monumental qui effectivement fait la renommée de Bourdel, mais à côté de ça, il y a aussi bien des œuvres de taille modeste, mais qui sont très émouvantes.
Une des plus belles choses, à mon sens, il y a le centaure mourant, parce que ça c'est très beau. Ça me fait penser quand Ursenard disait les choses purement belles sont solitaires comme la douleur de l'homme. Là, il y a quelque chose de vraiment de méditatif. C'est un peu comme un Christ, hein, il a la tête qui tombe. Et puis en même temps, voilà, c'est pour chacun d'entre nous, il y a à la fois l'élan vital et le désir parfois de lâcher prise. Et là, on voit les deux ensemble. Et puis sinon, une des plus belles choses, je pense que c'est quand même la Pénélope de Bourdel sur son socle.
Ah oui, elle est magnifique. Mais il l'a faite en différentes tailles. Hein, petites et grandes.
La sculpture, vous partez toujours d'une œuvre petite pour arriver... D'ailleurs, ce qui caractérise Bourdel, c'est sa capacité dans le monumental à ne rien perdre de l'élan et de la force des petites sculptures. C'est un tour de force d'arriver dans une œuvre monumentale à garder à la fois l'équilibre, la tension, sans que ça soit ni écrasant ni pompier.
Et vous préférez les petites tailles ou les grands? Qu'est-ce qui vous touche le plus, Jérôme Godot? Vous qui passez, votre quotidien, c'est Bourdel.
Moi, quand on entre dans le hall des plâtres et qu'on voit le centaure mourant tout au fond de l'abside, ça
c'est vrai que c'est impressionnant. Oui.
Parce que c'est vraiment une œuvre religieuse. Là, on est à la frontière de deux mondes. Et puis la Pénélope, c'est magnifique parce qu'elle est c'est l'infinie patience. Parce que sans elle, rien n'eût été possible.
C'est sa femme, le son modèle, non?
C'est son...
Ouais, c'est laquelle c'est...
Bourdel a eu deux muses. Il a eu à la fois une femme et puis une élève. Et puis, il y a un moment où ça a été, je crois, un peu un ménage à trois.
Oui.
Enfin, je pense que c'est Cléopâtre qui a eu le... C'était son élève grec. Je pense que sans Cléopâtre, Bourdelle ne serait pas Bourdelle.
Mm.
Les grands artistes sont souvent, le poids du féminin ou l'élan du féminin est déterminant. Mm. Et là, je crois vraiment que ce retour à la Grèce, d'ailleurs, elle était grecque. Donc, vraiment, je pense que toute la puissance d'inspiration de la mythologie qui a donné entre Héraclès, Pénélope, l'Apollon et le Théâtre des Champs-Élysées, parce que le Théâtre des Champs-Élysées, finalement, c'est un Parthénon moderne. Mm. Et le Théâtre des Champs-Élysées, la façade, c'est Bourdelle. Hein.
Mm. Oui, oui.
Parfaitement. Quand vous pensez à l'énergie de ce petit, parce qu'il ressemblait à une espèce de petit taureau, et la puissance de travail de ce type, c'est
impressionnant, oui. Alors, nous avons un auditeur qui pose cette question. Que pensez-vous de l'œuvre de Germaine Richier, qui fut l'élève de Bourdelle dans les années 20? Germaine Richier, dont vous proposez d'ailleurs un certain nombre d'œuvres dans le musée. La Régodias, 1938.
Germaine Richier est un immense sculpteur.
Germaine Richier.
Ah oui, c'est absolument magnifique. Il y a eu une grande exposition à Pompidou il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Et Germaine Richier dira, effectivement, je dois tout à Bourdelle. Mmh. Et je crois que dans cette leçon d'architecture, dans cette réflexion du corps comme architecture de l'espace, ça, c'est la leçon de Bourdelle poussée à l'extrême. Et c'est magnifique. Effectivement, d'ailleurs, grâce aux nièces de Germaine Richier, ou les arrière-petites nièces, qui ont été très généreuses, il y a deux œuvres de Germaine Richier qui sont en dépôt désormais dans le parcours des collections permanentes. Il y a un bus, il y a une tête extraordinaire, on dirait, qui est comme on dirait à la fois un naja ou un cobra qui se dresserait, et puis comme une sorte de masque d'escrimeur. Et puis il y a la Régodias, qui était c'est aussi beau que la tête de Néfertiti, et c'est absolument magnifique. Et c'est une architecture. D'ailleurs, Bourdelle disait chaque visage est une architecture. Et, et Germaine Richier a vraiment travaillé, j'allais dire, en écrémant et en se départissant finalement de la ressemblance au sens le plus réaliste du terme pour arriver à saisir la structure du visage.
Et la Régodias fait partie de ces merveilles que l'on peut découvrir au musée Bourdelle. Hein, il faut vraiment aller visiter ce musée, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et puis, il y a aussi cette exposition jusqu'au 12 avril, donc Magdalena Abakanovic. Alors, peut-être c'est le moment de parler du musée pratique, puis on va quand même rentrer dans la vie de Bourdelle. Hein. Alors je précise, c'est 18 rue Antoine Bourdelle, ça ne se rate pas. Le musée Bourdelle et rue Antoine Bourdelle. Et puis, donc c'est juste à côté de Montparnasse, c'est juste en dessous de la gare Montparnasse. Et c'est ouvert tous les jours, sauf il y a un jour, je crois. Hein,
lundi, les musées de la ville de Paris sont fermés le lundi.
Tous le lundi, c'est ça.
D'accord. Et c'est ouvert de 10h à 17h45. Il y a même un café-restaurant où on peut déjeuner.
Ça, c'est nouveau, ça. C'est le café Rodia.
Le Rodia, et l'homme qui tient ça est très sympathique. C'est très bon. C'est très bon et c'est vraiment... Donc, on peut passer la journée. J'ajoute d'ailleurs pour les auditeurs que les musées de la ville de Paris, les collections permanentes sont gratuites. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir méditer dans les jardins du musée Bourdelle.
Surtout que le patron arrive en plus.
En plus.
Clairement. Alors, on va avoir une belle semaine en plus. C'est ce qu'il nous prévoit. Donc profitez-en, chers auditeurs. Je vous propose de reprendre sur la vie, hein, la jeunesse, et puis son installation à Paris, ses premières sculptures, ses succès, ses échecs. Nous vous écoutons.
Il arrive à Paris en 85, hein, bon, parce que c'est un enfant prodige, ou en tout cas c'est la légende qu'il a bien voulu transmettre. Mais oui, il est très doué, son père est menuisier, il s'inscrit à l'Académie aux Beaux-Arts de Toulouse très très jeune, il a une bourse, il est soutenu, il arrive à Paris, il va réussir le concours d'entrée aux Beaux-Arts, il sera ensuite dans l'atelier de Falguière, mais en même temps il va très vite quitter les circuits officiels. Il va s'installer, il loue un premier atelier à Montparnasse en 85, et ce sont des bâtiments qui étaient récupérés de l'exposition universelle, qui n'avaient pas du tout vocation à être conservés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des travaux considérables, parce qu'il n'y avait pas de fondation, en fait. Donc, c'était pas du tout quelque chose qui était appelé à perdurer dans le temps. Et donc, c'est un peu une enclave temporelle. Et puis, il s'installe là, et au début... vous savez, la sculpture, c'est cher. Si vous voulez, si vous voulez, parce qu'une fois que vous avez modelé, si vous voulez fondre une œuvre en bronze, il faut de vrais subsides, il faut une commande. Il n'a évidemment pas les moyens, donc au début, il va faire venir son père, sa mère, sa tante Rose, parce qu'il est très famille, qui vont louer. Son père avait une petite échoppe de menuisier dans la rue Antoine Bourdelle, qui à ce moment-là était une impasse, mais tout ça était... C'était aux portes de Paris, hein. C'était vraiment Vaugirard, c'était encore une plaine en pleine urbanisation, donc c'était un peu c'était limitrophe de la ville et c'était un campement de fortune. C'était extrêmement modeste, ça n'avait pas du tout le côté léché que ça peut avoir aujourd'hui. Donc il subsiste comme il peut. Il peint, il dessine, il fait des pastels, il fait des portraits. Donc si Bourdelle n'avait fait que des portraits et des peintres, je ne dis pas que c'est un mauvais peintre, c'est pas un grand peintre, donc il n'y aurait pas de musée Bourdelle aujourd'hui. Mmh. Et même les œuvres du début, parce que je pense à la première victoire d'Annibal, qui va présenter au Salon des artistes français, où il va avoir un deuxième prix ou un prix d'accès, ou un accès. Enfin, c'est une œuvre. Qui suis-je pour dire ça? Mais encore une fois, s'il n'avait fait que ça, ce serait un sculpteur un peu. Non pas académique, mais c'est un peu dans la lignée de Falguière, mais c'est pas Falguière, et on ne se souviendrait pas de Bourdelle. Et puis, il va y avoir aussi un Adam qui est très beau, il y a un bronze, mais c'est très inspiré de Michel-Ange, c'est très inspiré de l'Adam de Rodin, sans en avoir ni le vibré, ni la flamme, donc... c'est à partir du monument à Montauban que tout à coup, là, c'est le début vraiment d'une... À ce moment-là, si j'ai bonne mémoire, c'est 1895, quelque chose comme ça, et ça sera terminé en 1901 ou 2. Donc ça, c'est la grande... C'est le moment où Bourdelle est en train de devenir Bourdelle. Et donc, dans quelque chose de très expressionniste, d'un peu torturé, de très... Il y a une forme de... On est dans un expressionnisme qui est assez proche des chairs de Rodin, parce que chez Rodin, il y a un sens du frémissement de la chair qui est fascinant, qui est absolument fascinant. Ce que Bourdelle, en revanche, dans le côté... Bourdelle va se diriger vers quelque chose de plus architecturé. Chez Rodin, vous n'avez pas vraiment le sens du monumental. Il y aura la porte de l'enfer, mais c'est un peu un des seuls... Bourdelle, lui, conçoit tout en termes de monument. Ça, c'est certain. Donc, il y a vraiment cette monumentalité sans que ça soit écrasant. Mmh. Parce que si on le regarde mal, on a l'impression que ça pourrait être de l'art soviétique mais c'est pas vrai.
Pour bien situer sa vie, donc il est né en 1861, il se révèle vraiment, son premier style Bourdelle, c'est donc ce monument à Montauban en 1895, il a à peu près 34 ans, c'est là vraiment où il s'affirme.
Il commence vraiment à devenir lui-même, et c'est le moment d'ailleurs effectivement où il est devenu le praticien de Rodin, et où il y a à la fois la leçon de Rodin, et progressivement on va s'affranchir de Rodin. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est un mot qu'on prête à Brancusi, qui lui-même avait été un des praticiens de Rodin, et qui dit « Je suis parti parce que rien ne pousse à l'ombre des chênes ». Donc, c'est aussi l'idée que si vous êtes un épigone de Rodin, vous resterez un épigone. C'est-à-dire que...
Oui, il faut partir, sinon...
Il faut partir.
Oui.
C'est un peu la figure... Mais d'ailleurs, il y a dans le jardin, quand vous faisiez allusion à... Il y a ce buste de Rodin en Dieu terme, qui est une œuvre.
Il est magnifique. Il est dans le jardin du cloître.
Hein,
au début, ce buste de Rodin est exceptionnel.
C'est exceptionnel. C'est
extraordinaire.
Et on est en même temps. C'est un hommage à Rodin et c'est très loin de Rodin. C'est très loin de Rodin parce que c'est vraiment. Il est comme une espèce de. Alors là, quand la critique a vu ça en disant mais qu'est-ce que c'est? C'est un mammouth. Il est comme un dieu terme avec cette barbe qui est comme un.
C'est Rodin qui a dit ça?
Oui. Non. Je crois que Rodin n'a pas. Il n'a pas été vraiment satisfait. Il a interrompu les séances de pause. On ne sait pas pourquoi il a arrêté la pause. De toute façon, je pense que Rodin, en dehors de Rodin, rien ne l'intéressait. Je pense que Rodin se moquait complètement de ce qu'on pouvait penser de lui et dire de lui. Il était dans une capacité de travail et de... Il y a une force chez Rodin qui est saisissante.
Ce buste de Rodin, c'est de quelle année ?
Bonne question. Je pense qu'on est. Est-ce qu'on doit être dans les années 1900, quoi, 1910, un peu oui. avant, entre 1905 et 1910.
Parce que vous avez réalisé toute une exposition, justement, un peu ce match, entre guillemets, Rodin-Bourdel, avec ce buste extraordinaire, oui, d'Apollon, qui est l'œuvre de rupture, en quelque sorte, entre Rodin.
C'est ce que Bourdel racontait, parce que Rodin, en fait, a été très... Dans le cas de Rodin et de Bourdel, Bourdel est resté jusqu'à la fin celui qui demandait, parce qu'en fait, il voulait la reconnaissance du maître. Rodin était, contrairement à ce qu'on raconte, n'était pas du tout quelqu'un de... Il était totalement centré sur son travail, mais toute la légende autour de en disant qu'il aurait piqué le travail de Camille Claudel, c'est absolument pas vrai. C'est même une contre-vérité. Il a tout fait pour la pousser, pour la soutenir. Donc Rodin était... C'est une personnalité absolument hors norme. Bourdel voulait vraiment la reconnaissance du maître, mais Rodin la lui a donnée. Simplement, Rodin, bon, il était pris par son propre travail.
J'aimerais lire, justement, si vous le voulez bien, ce que dit Rodin de Bourdel, et je lirai ce que dit Bourdel de Rodin, et puis, bien entendu, n'hésitez pas à commenter cela. Voici ce que dit Rodin de Bourdel. « Pour moi, la grande affaire, c'est le modelé. Pour Bourdel, c'est l'architecture. J'enferme le sentiment dans un muscle. Lui, il le fait jaillir dans un style. » C'est un beau compliment.
C'est très beau.
C'est magnifique.
Beau, c'est très vrai.
Et Bourdel de Rodin, ce génie qui influence tout artiste, j'ai travaillé pour lui, je le fréquente et je l'admire profondément. Mais celui qui suit restera toujours en arrière. J'ai donc acquis toute la science que j'ai été capable d'acquérir des autres et après digestion, je tends de toute ma pente naturelle à rester moi. Qu'est-ce que vous expliquez hein,
bah
vous...
C'est très bien dit, c'est exactement ce dont il s'agit. Et je pense que ce que Bourdel a pris de Rodin, il y a une leçon extraordinaire où il s'approche d'une sculpture avec une bougie et il dit, vous voyez, il n'y a pas un plan qui ne soit pas articulé. C'est que quand vous voyez la surface d'une sculpture, quand c'est un grand sculpteur, les volumes ne sont jamais lisses. Il y a des renflements, des pressions presque insensibles. Et c'est la lumière en glissant qui crée cette impression d'ensemble. C'est ce que si vous voyez la décomposition du cubisme, c'est cette leçon-là poussée à l'extrême. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que l'articulation des plans comme dans une structure brutale et géométrique. Mais c'est cette intuition-là. Et c'est ce que Bourdel a pris de Rodin en quittant l'enveloppe de la chair pour trouver comme la structure. Et donc, on va avoir ces formes très architecturées. Et parmi les élèves de Bourdel, il y a Giacometti. Et donc, les sculptures, cette volumétrie très repliée, presque décharnée de Giacometti, elle vient de Bourdel via Bourdel de Rodin. Donc, c'est cette intelligence plastique. Rodin a ouvert des voies et Bourdel est allé, mais c'est comme s'il fallait quitter. Chez Rodin, c'est vraiment le frémissement de l'enveloppe. Rodin est une des seules personnes qui n'ait pas peur du corps. Il n'y a aucune forme de puritanisme chez Rodin. Il n'a pas peur de la chair. Elle est ni obsédante, elle est divine. Et chez Bourdel, il y a le désir, derrière cette enveloppe, de saisir quelle est l'énergie qui anime tout ça. Quelle est la structure interne.
Mais comment il le traduit en sculpture ?
Justement, par ces constructions beaucoup plus architecturées, ces volumes qui ont l'air d'être à la fois plus rigides et qui en même temps sont dynamiques. Il y a une tension chez Bourdel. Je pense que ce qui est frappant chez Bourdel, tout à l'heure on parlait du senteur mourant, c'est à la fois l'élan et la retenue. Et ça, c'est toujours ce que vous avez dans un corps, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, pour tenir debout, il faut bien qu'il y ait une énergie. Mais cette énergie, il faut aussi la retenir. Mais si on la retenait complètement, on tomberait par terre. Donc, c'est toujours entre tension, relâchement. Et c'est là-dessus que Bourdel a essayé de travailler. Et c'est ce qu'il a essayé de montrer ça, c'est la manière dont Jérôme Godeau essaye de décortiquer l'affaire, mais Je crois vraiment que c'est ça qui fait la grandeur de Bourdelle. C'est ce qu'on voit dans le Centaure Mourant, c'est ce qu'on voit dans l'Héraclès Archer, c'est ce qu'on voit dans... À la fois, il y a un déploiement et en même temps une retenue. Tension, déploiement.
À partir de quand adopte-t-il ce style, justement, qui est celui de sa maturité, période où il va faire des œuvres monumentales, vous l'avez rappelé, ce style grec archaïsant ou roman. Et comment en arrive-t-il là exactement? Parce que ce qui est frappant dans toutes ses œuvres, c'est que la plupart des visages, d'ailleurs, sont un peu durs, on les traits un petit peu durs.
Bah, d'ailleurs, ce sont des masques. En fait, oui. vous n'avez rien de réaliste, finalement. Bon, il y a un Bourdelle portraitiste, mais dans toutes les œuvres, j'allais dire, qui ont trait à la mythologie, enfin, ou qui sont une réactivation de la mythologie, on n'est plus du tout dans un art réaliste. Je pense qu'on est dans de l'art sacré, en fait. Donc, les visages sont effectivement... Ils sont réduits à des masques, à l'articulation de plans. Et je pense que cette, grosso modo, c'est entre 1900 et 1914 qu'il y a cette évolution. Mais c'est l'objet d'une recherche. Par exemple, la tête d'Apollon, qui est tellement belle, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre,
oui.
Il commence à travailler là-dessus en 1899 et elle se termine, je crois que c'est en 1911. Et vraiment, elle est fondue en 1914. Donc, il y a un temps de maturation et de maturité. Les chefs-d'œuvre, finalement, je ne crois pas à l'immédiateté. Il faut bien. C'est comme une sorte d'imprégnation successive.
J'aimerais lire ce que dit Maurice Denis sur justement, nous évoquions cette verge monumentale. Où ces muses, hein, pour cette Vierge, ont été Cléo et Rhodia, hein, c'est Cléopâtre, pardon, et
sa fille, Rhodia. C'est Rhodia qui fait le rôle de l'enfant Jésus.
Rhodia, c'est... Ben, c'est ce que dit Maurice Denis, ça rejoint un peu, en effet, ce que dit Rodin, cette œuvre grandiose, aussi belle pour son architecture que par l'expression des détails. Cette Vierge Mère est un chef-d'œuvre de l'art moderne et de l'art religieux de tous les temps. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de détails, justement, dans ces sculptures.
Non, mais
et pourquoi Maurice Denis évoque-t-il ces...
En fait, je pense que, par exemple, le détail, il doit penser à la coiffe de la Vierge, en fait, qui est à la fois le... Parce que c'est comme un portrait de Cléopâtre, et donc c'est le fichu que les praticiens, qu'elles se mettaient sur la tête à cause de la poussière, effectivement, de la poussière de pierre ou de la poussière de plâtre. En même temps, on est très très proche des vierges médiévales. Hein. C'est vraiment... Et là, on est vraiment proche des vierges médiévales et des statues colonnes médiévales. Si vous songez aux statues de vierges le long des portails des cathédrales romans qui font corps vraiment avec l'architecture. C'est vraiment... Et puis c'est l'idée que la Vierge, c'est la porte sacrée de l'incarnation divine. Donc, on est dans cette tradition-là, c'est sûr. Alors, on comprend bien d'ailleurs que pour Maurice Denis, c'était un sommet de... Parce que Maurice Denis est un artiste pour lequel sa foi catholique a été vraiment déterminante. Alors, pour lui, il y avait à la fois l'héritage médiéval... Et puis l'héritage de la peinture italienne des primitifs italiens, de Fra Angelico, voilà. On est dans cette... Donc il fait référence à tout ça.
Alors Jean Gounod, vous avez aussi évoqué ces prestigieux élèves, Germaine Richier, et puis bien sûr...
Giacometti.
Et Giacometti, en effet, il a eu une grosse activité d'enseignement.
Il a enseigné pendant des années, effectivement. Je pense que c'était un très bon enseignant. C'était un très bon enseignant. Il avait le sens. Il a beaucoup. Je pense, il était très lyrique. Donc il y avait les cours et les leçons à l'Académie de la Grande Chaumière. Ça a duré 20 ans. Il a eu des élèves. Il a eu des centaines d'élèves. Et parmi les plus prestigieux, c'est évidemment Germaine Richier d'une part et Giacometti. Mais Giacometti sera plus. Il dira à un moment, je ne dois rien à Bourdelle.
C'est moins reconnaissant que Germaine Richier.
C'est une bonne guerre, oui, mais Germaine Richier, Bourdelle adorait Germaine Richier. Il,
oui.
Il disait, c'est mon rossignol d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu un très grand... Je pense que Bourdelle s'entendait davantage avec les femmes. Il préférait les femmes aux hommes. Mais en même temps, on voit très bien il a vraiment soutenu en même temps Giacometti, parce qu'un jour, quand Giacometti présente une espèce de torse qui est vraiment une sorte d'architecture au plus quasi abstraite, Bourdelle lui dit des choses comme ça, on les fait chez soi, mais on ne les montre pas. Et en même temps, il va faire tout son possible pour que Giacometti l'expose. Je crois qu'on est en 1920 ou 21, je ne me souviens plus exactement, mais ou 22, je crois, au Salon du Jeu de Paume, dont Bourdelle est le président, et il va faire en sorte que Giacometti puisse l'exposer. Donc, en fait, il a vraiment poussé ses élèves. Et Giacometti est resté 3 ou 4 ans à l'Académie de la Grande Chaumière, et il a appris beaucoup à Bourdelle, justement, dans ce sens de l'architecture.
A-t-il eu comme élève Jean-Paul Belmondo? Pas Jean-Paul.
Non.
Le père de Jean-Paul Belmondo, non?
Pas à ma connaissance, non.
Je vous propose maintenant d'évoquer le musée, de visiter entre votre compagnie, Jérôme Godeau, si vous le voulez bien, le musée Bourdelle, avec ses endroits particuliers, et pour chaque endroit particulier, un choix peut-être d'œuvres que vous voudriez commenter.
Bah écoutez, par exemple, en tout cas, quand on entre dans le musée Bourdelle, le Saint des Saints, c'est vraiment l'atelier de sculpture, c'est là où tout a commencé. En fait, il a été restauré il y a 3-4 ans avec le plus grand soin. Il n'y avait pas de fondation, donc les murs s'écartaient, tout se cassait la figure. Et aujourd'hui, on a l'impression que rien n'a bougé. Et je crois que c'est une restauration extrêmement réussie. Ça a été vraiment fait dans la règle de l'art. On a démonté les planchers, on a gardé toutes les lattes, tout a été remis. Donc, il a fallu injecter du béton jusqu'à 25 mètres de profondeur parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des carrières sous le musée et que vraiment, ça se cassait la figure. Mais on ne peut absolument pas se rendre compte que les choses ont été transformées. Et on entre chez lui. C'est-à-dire, on est vraiment dans une forme de sacralité aussi, parce qu'il y a... Il y a à la fois les plâtres qu'il avait sous les yeux. Vous évoquiez tout à l'heure ce Christ médiéval magnifique. Il y a des statues médiévales qui sont la collection de Bourdelle. Il y a le mobilier dont l'histoire voudrait que ce soit le père de Bourdelle qui ait sculpté la table. C'est pas sûr, mais c'est la légende. En tout cas, c'est ce qu'il avait sous les yeux. Ça a été reconstitué à partir de photographies. Et puis, il y a effectivement le centaure mourant, qui est le plâtre sous lequel le cercueil de Bourdelle a été exposé quand Bourdelle est mort en 1929. Donc, c'est vraiment le Saint des Saints. Et quand on rentre là-dedans, il y a même encore l'odeur, en fait, de la poussière. Et une chose qui n'a pas bougé, c'est la lumière, puisque c'est cette lumière du Nord qu'il voyait. Donc là, on est vraiment... C'est le cœur du musée, et c'est le cœur battant, et il s'est resté... Vous entrez dans le Montparnasse des années 1885. Donc... Ça, c'est saisissant. Et puis, il y a ensuite son atelier de peinture, parce que c'est quelque chose qu'il a loué un peu plus tard. Parce qu'au fur et à mesure de la reconnaissance, il a loué les ateliers avoisinants. Au départ, il n'en avait qu'un. Donc, il a loué les ateliers avoisinants, et il y a cet atelier de peinture qu'on a dû restaurer dans les années 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Et là aussi, je crois que c'est très bien fait, parce que nous sommes inspirés de photographies anciennes, puisque cet atelier de peinture, c'était l'endroit à la fois où il recevait ses élèves lorsqu'il faisait ses pastels pour pouvoir vivre. C'est le mobilier qu'il a chiné lui-même. Donc c'est un faux mobilier de famille. Donc la commode qu'on voit, le lit de repos sur lequel il faisait poser ses modèles, tout ça, ce sont des meubles qu'il a chinés chez les antiquaires. Et même les tableaux, il prétendait avoir trouvé un Titien et un Ingres. Donc c'est pas Ingres, mais c'est un beau portrait. Alors, probablement d'un des élèves d'Ingres, on a essayé de savoir, pour l'instant, on n'a pas réussi à élucider mais c'est effectivement une œuvre d'une grande qualité qui a été, tout ça a été restauré pour l'occasion.
Je m'en souviens, dans cet atelier de peinture, il y a un certain nombre d'objets de ces collections, soit des sculptures, soit des peintures, vous l'évoquez. Et c'est toujours, je trouve d'ailleurs, intéressant et touchant, lorsqu'on visite une maison d'artiste, de voir à quoi ils s'intéressaient en dehors de leurs œuvres, vers quoi ils allaient, ce qui les attirait et pourquoi. Et ça, c'est très frappant parce qu'on découvre un peu, vous avez fait d'ailleurs une exposition là, sur ce thème, c'est entre autres, hein, c'est le bordel collectionnaire. Qu'est-ce qu'il affectionnait? Qu'est-ce qu'il collectionnait? Qu'est-ce qu'il recherchait?
Par exemple, là, il y a quelque chose de très frappant, c'est qu'il y a une armoire aux antiques. Alors, dans cette armoire, il y a effectivement des tanagras qui sont vraiment des tanagras du...
Alors, les tanagras,
oui, vous savez,
les petites sculptures grecques.
C'est du mobilier funéraire, c'est des statuettes qui sont très jolies, ces femmes drapées. Ce sont des œuvres que l'on trouvait dans les tombes. Et donc, il y a aussi des vases grecs du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a des copies du 19e, parce qu'il a cru acheter des antiques, ça n'en était pas, mais ça dit quelque chose du goût pour l'antique à la fin du 19e. Vous savez, à partir de sous Napoléon III, c'est le début des grandes fouilles. Il y a la collection Campana au Louvre, et il va y avoir une multiplication comme ça des terres cuites anciennes, et c'est comme si on pouvait toucher du doigt l'art grec qui devient comme une sorte de... Il y a une forme d'immédiateté, d'intimité. Donc, c'est son monde intérieur qu'on voit.
Et dans cet atelier de peinture, il y a un objet qui vous touche particulièrement, Jérôme Godeau, qui voudrait signaler, qui...
Alors, qu'est-ce que...
Ben, ou une peinture, que sais-je.
Il y a peut-être... en fait, il y a tous les portraits qu'il a faits de sa première muse, Marie Laprade, qui est...
Oui.
Et ça, c'est très émouvant, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est un jeune homme, et il est épris de cette femme qui a 15 ans de plus que lui, et qui est une bourgeoise qui l'a probablement, j'allais dire, qui l'a dégrossi et qui l'a initié. Et donc, il y a une sorte de... Au fond, il a été conduit à lui-même à travers la sollicitude ou l'amour que les femmes lui ont porté. Ça, c'est... Les femmes elles accouchent des hommes dans tous les sens du terme.
Alors, je vous propose que nous fassions une petite pause, un message de la radio à écouter. Et puis, suivi d'une petite pause musicale, vous avez choisi une œuvre de Beethoven en référence ailleurs, j'imagine, à tous ces portraits, ces bustes, de Beethoven, toute cette série de bustes que vous avez certainement évoquées. 40 bustes, c'est énorme. Et puis, nous écoutons donc le deuxième mouvement de la 7e symphonie, juste après le message de la radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Jérôme Godeau, qui est écrivain, historien de l'art et qui vient évoquer le musée Bourdelle où il travaille actuellement. C'est un grand spécialiste de Bourdelle. Il a été le commissaire de nombreuses expositions qui y ont été présentées. Donc Jérôme Godeau, dans cette première partie de discussion, nous a présenté Bourdelle, sa vie, son œuvre, son style. Nous sommes actuellement, grâce à lui, en train de parcourir le musée qui a été magnifiquement restauré entre l'atelier du peintre, l'atelier de sculpture, où là, on côtoie Bourdelle dans cet atelier de sculpture. C'est extraordinaire.
On est chez lui.
Et on est chez lui, exactement. C'est toute l'émotion de procurer par cette visite. Et il nous reste à évoquer l'extraordinaire salle de l'atelier.
Le hall des plâtres.
Le hall des plâtres. Voilà. Et vraiment, c'est très différent, bien sûr, du hall de la salle des sculptures, où là, on est chez Bourdelle. L'atelier des plâtres, c'est une réalisation, vous allez voir, posthume, mais qui met en valeur ses œuvres de manière exceptionnelle. Nous visiterons aussi quelques œuvres, grâce à Jérôme Godeau, de l'extension, qui a été faite à côté de ces salles-là. Et puis, nous conservons à peu près 15-20 minutes pour évoquer l'exposition en cours, exposition dont, là aussi, Jérôme Godeau est le commissaire scientifique. Alors, c'est un style différent de celui de Bourdelle. Mais c'est à connaître tout de même. Ça dit de l'exposition consacrée à Magdalena Abakanovic. Et finalement, outre l'intérêt que présente cette exposition, ça permet en effet de se cultiver, de découvrir autre chose et de comparer ses œuvres à celles de Bourdelle. Et si les œuvres de Magdalena peuvent surprendre, on peut toujours, en quelque sorte, rester avec celle de Bourdelle.
Je vois que je n'ai pas réussi à vous convaincre, Thierry, mais je crois que Magdalena Abakanovic est un très très grand sculpteur. Simplement, oui. Ce qui est très surprenant, c'est qu'elle travaille la matière textile.
C'est ça. Ah, mais donc, ça mérite l'intérêt. Absolument l'intérêt.
C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas ce qu'on voit. Donc, toujours, on est désarçonné. Mais en tout cas, pour en revenir au musée Bourdelle.
Vous allez nous l'expliquer. Alors, je vous propose de terminer avec vous, si vous voulez bien, Jérôme Godeau.
Terminons avec
l'atelier des plâtres.
Avec le hall des plâtres, qui est une extension, effectivement, de 62. C'est la première grande extension du musée. Et c'est une extension magistrale, parce qu'en fait, c'était destiné à accueillir l'œuvre monumentale de Bourdelle, donc les plâtres monumentaux. Ça a été voulu par Cléopâtre Bourdelle, qui était encore de ce monde à ce moment-là, qui était la veuve de Bourdelle et qui a été à la fois la muse, l'inspiratrice et qui a lutté pour que vraiment le musée existe. Donc si aujourd'hui il y a un musée Bourdelle, d'ailleurs, si Bourdelle est devenu Bourdelle, je pense que c'est pour partie grâce à Cléopâtre. Et donc, ce hall des plâtres 62, ça tient à la fois de la cathédrale romane et ça tient du temple grec. Et il y a cette lumière du nord là aussi, magnifique, est une lumière très très stable, et puis il y a un côté opalescent dans ce hall des plâtres, donc c'est un peu comme du marbre, mais un marbre un peu doré, et c'est très 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 saisissant. Et on a dans la perspective, tout au fond, dans l'abside, parce que c'est vraiment comme un temple, on a ce centaure mourant en haut des marches. Et puis, il y a toute la frise immense du Théâtre des Champs-Élysées, les bas-reliefs du Théâtre des Champs-Élysées de l'autre côté, et puis l'Héraclès Archer, qui est un... Alors, soyons clairs, au fond, l'Héraclès Archer, c'est un monument à l'érection. Cet Héraclès qui bande son arc, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment le temps viril, c'est le temps de l'émission virile. Et en face, on a Pénélope sur son socle, qui est l'axe. Et il aura fallu peut-être que Pénélope soit un axe pour qu'Ulysse puisse revenir dans sa patrie. Donc, on est vraiment là dans une... Il y a de la grandeur chez Bourdelle. Je pense que c'est quelqu'un qui a le sens de la grandeur. Il n'est pas grandiloquent. Quand il est grandiloquent, il est mauvais, si j'ose dire. Enfin, qui suis-je pour dire ça? Mais là on est
vraiment... Comment est-il grandiloquent? Vous pensez à quelle sculpture? Au général Alzéar.
Oui, mais en fait, c'est
pour général Alzéar.
C'est probablement la limite de mon regard, c'est-à-dire que les dernières œuvres, les grandes œuvres de la fin où Bourdelle est assailli de commandes reconnues, je dois avouer que je suis moins sensible, mais probablement parce que je n'arrive pas à le voir. C'est compliqué de regarder, vous savez. Thierry, Quand je suis arrivé au musée Bourdelle il y a plus de 15 ans, je ne voyais rien. Aujourd'hui, je pense que je vois des choses à force de travail. Et je pense d'ailleurs que si le nouveau parcours des collections permanentes est réussi, c'est que c'est l'objet de 15 ans d'exposition qu'on a conduite avec Amélie Simier, Colin Lemoine, Valérie Montalbetti, aujourd'hui avec Ophélie Ferlier-Bois et Lilie Daphnas. Ophélie Ferlier-Bois étant la directrice remarquable aujourd'hui du musée Bourdelle qui a succédé à Amélie Simier. Mais l'intérêt des expositions temporaires, c'est qu'elles vous obligent à travailler sur l'œuvre et à la remettre en perspective. Et on en a, les grandes œuvres, on n'a jamais fini de les regarder. Et elles vous livrent leurs secrets au fur et à mesure que vous travaillez dessus.
Alors, je me demande, il reste aussi à évoquer dans cet atelier des plâtres la salle Michel Duret, en quelques mots.
Michel Duffet a été un styliste. Il a travaillé pour le mobilier moderne. C'était un très grand designer. Il a épousé Rodia Bourdelle, donc la fille de Bourdelle. Et Michel Duffet a été, le premier conservateur, le premier directeur du musée avec Rodia Duffet-Bourdelle. Mais oui, Michel Duffet a vraiment été, je dirais, à la fois le fer de lance. Il a organisé des expositions, il a assuré la conservation. Donc il y a une petite salle qui lui est consacrée avec son mobilier. C'est du très beau mobilier, du mobilier des années 30, extrêmement séduisant. Donc il y a eu toutes ces volontés, ces intelligences qui ont œuvré pour que le musée soit aujourd'hui ce qu'il est. Donc, les musées, c'est un passage de relais. Donc, quand vous travaillez dans un musée, en fait, vous travaillez pour les autres. Conserver pour transmettre. C'est Rilke aussi qui disait, c'est merveilleux, les œuvres d'art qui sont infiniment fragiles et pourtant qui nous survivent. Donc, l'idée, c'est de...
Il nous reste à évoquer dans cette visite, Jérôme Goudot, ce sont les... C'est l'intérieur qui nous mène effectivement à l'extension pour Zampart. Oui. Ce sont des salles du symbolisme et de l'art nouveau où vous présentez notamment un certain nombre de têtes. Alors, il y a la fameuse tête d'Apollon qui est un chef-d'œuvre que vous avez commenté, mais alors très surprenant, il y a les têtes de Beethoven. Alors une série impressionnante. Quelle est la signification de cette série
Mais Bourdelle a travaillé sur Beethoven toute sa vie. En fait, il y a eu une espèce. Mais Beethoven, c'est un peu dans tous les ateliers d'artistes, les ateliers romantiques à la fin du... Ils avaient tous un masque de Beethoven, qui était d'ailleurs un masque qui avait été fait de son vivant. Donc cette tête du génie torturé, du génie à l'écoute, c'est une figure... Pour les sculpteurs, il y a à la fois la tête, il y a Beethoven et puis il y a Michel-Ange. Donc c'est un peu les deux géants. Et je crois que pour Bourdelle, c'était à la fois une identification... Et c'est une manière, autour de ce visage, de chercher, vous parliez tout à l'heure de son style, c'est une manière d'explorer la sculpture et d'explorer des voies différentes. Parce que si vous pensez au grand masque tragique de Beethoven, qui est presque en état de décomposition, où on voit ce visage torturé qui est en train de se défaire, ses paupières qui sont aveugles, cette moue qui devient un rictus, comme si le visage était vraiment en train de se défaire. C'est le mot de Bourdelle, ce sourd qui entendait Dieu. Donc il y a l'idée comme ça d'un défi ou d'une douleur intérieure comme tendue tout entière dans l'inaudible et l'inouï. Donc ça c'est... Et puis il y a des têtes beaucoup plus architecturées parce que vous aviez évoqué Thierry le Beethoven dit Metropolitan parce qu'il avait été acheté très rapidement par le Metropolitan Museum à New York où là on a une œuvre beaucoup plus architecturé avec un socle qui évoque déjà le socle d'Apollon et avec une phrase moi je suis celui qui presse le nectar délicieux des dieux. Donc il y a vraiment cette idée que il faut construire et architecturer quelque chose pour s'approcher de la structure du génie. Donc pour Bourdelle au fond Beethoven n'est pas un alibi mais c'est un motif à partir duquel il réfléchit au statut du génie, à la tête du génie, à cette cérébralité, puisque c'est ce génie qui porte dans son crâne toute la musique des sphères. Donc, comment rendre ça en sculpture? Donc, c'est un peu une gageure, mais voilà ce que ça dit. Je pense que c'est une vie de recherche, en fait.
Nous arrivons au terme de cette visite en votre compagnie, visite qui vous a permis, en effet, Jérôme Goudot, pour notre plus grand plaisir, d'évoquer la vie et l'art, bien sûr, de Bourdelle, tel que c'est magnifiquement mis en valeur dans ce musée Bourdelle, rue Bourdelle à Paris. Il faut absolument le visiter, chers auditeurs. Après toutes les restaurations qui ont été menées, le résultat est vraiment splendide. Je pense que vous l'avez ressenti en écoutant Jérôme Godot.
J'espère.
Alors, nous allons évoquer maintenant cette exposition temporaire qui est dans une aile, effectivement, que vous allez
nous expliquer. C'est la seconde expansion
c'est
de Christian Porzamparc
que vous avez évoqué. J'ai quand même deux questions à vous poser, si vous voulez bien, avant d'évoquer, c'était à la fois l'aile Porzamparc et l'exposition qui a lieu actuellement, consacrée donc à Magdalena Abakowicz, qui est un grand sculpteur polonais. Eh bien, c'est l'œuvre ou les œuvres qui vous touchent le plus dans tout ce que vous avez côtoyé au musée et Bourdelle. Et puis l'autre question, c'est que voudriez-vous que nous retenions tous de Bourdelle ?
Un des chefs-d'œuvre, c'est tout de même la tête d'Apollon. Ça, c'est magnifique. C'est un,
oui.
Le dieu de la beauté est un dieu couturé. C'est un dieu aux deux visages. C'est un dieu balafré, puisqu'en fait, initialement, Bourdelle était parti d'un masque qu'il a modelé en terre et qu'il a abandonné dans un coin. Il le retrouve tout craqué. Et au lieu de corriger ses craquelures, il va construire autour. Alors ça, c'est la leçon rodinienne. On part du fragment, et le fragment, comme s'il portait en lui tout un monde est peut-être encore plus explicite que dans l'œuvre accomplie. Et à partir de cette tête, il va construire vraiment, il va trouver finalement élaboré autour d'un socle. Et c'est vraiment un dieu guerrier. Et ce socle, quand on le voit de derrière, c'est presque comme un obus. Donc il y a une très grande beauté, il y a une très grande force là-dedans. Et il dira à un moment, je l'ai vu, le dieu, je l'ai vu surgir irrité dans les reins. Donc ça dit quelque chose, je pense, du monde des dieux avant le christianisme. Et le monde des dieux, le monde antique, est un monde sans rémission. C'est un monde sans charité. Il n'y a pas de place pour la charité. La charité, ça, c'est le mystère christique. Je crois que dans l'Antiquité, je ne dis pas qu'il n'y avait pas l'intuition, mais il n'y avait pas d'espace pour ça. Et je crois que là, ce qu'on voit vraiment, c'est une idole. C'est une idole, et quand la nuit, quand on voit ce... En plus, c'est une très belle fonte, c'est une fonte rudier à la feuille d'or, enfin au mercure, donc un peu mordoré. Et quand on voit ce dieu implacable, et ça me fait penser dans le mépris quand on voit le vieux Fritz Lang qui dit « Ulysse n'était pas un névrosé moderne, c'est un homme simple pour lequel le monde est à prendre ou à laisser. » C'est ça qu'on voit. Peu importe de savoir, au fond, il n'y a pas de... La vie est sans rémission. Mais ça, c'est... C'est peut-être ça le monde de Bourdelle. C'est un monde sans... Finalement, c'est un monde peut-être sans charité. Je ne sais pas.
Lui n'en manquait certainement pas.
Non, mais je crois que ce dont il s'est approché, c'est peut-être comme les origines de quelque chose. Alors le contraire, ça serait effectivement la Vierge à l'enfant.
Oui.
C'est l'autre pan, parce qu'effectivement... Oui. Le monde des cathédrales, c'est comme une âme de pierre. Donc,
c'est vrai qu'il y a une certaine dureté dans nombre de ses œuvres.
Il y a quelque chose d'implacable, c'est vrai. Oui. Alors même le Centaure mourant, qui est une œuvre tellement... Il est aussi en train de s'écrouler. Ça dit en tout cas... Il y a un rapport au... Je ne sais pas s'il y a un rapport religieux, mais sans doute un rapport au sacré, autour du... dans ce que la vie a à la fois de mystérieux et d'implacable. C'est peut-être ça le monde de Bourdelle. D'ailleurs, quand on voit le théâtre des Champs-Élysées, c'est vrai que c'est un temple. On rentre dans un temple.
Que voudriez-vous que nous retenions de Bourdelle ? Ce que vous venez d'expliquer ?
Peut-être.
Avec quand même une fenêtre qui est cette Vierge, cette Vierge à l'offrande.
On espère l'infinie miséricorde.
Jérôme Godot, je vous propose pour le petit quart d'heure qui nous reste que vous évoquiez à la fois l'extension de Porzamparc qui est récente
elle a quand même 30 ans
tiens. Oui, bah, 30 ans c'était hier
30 ans c'était hier, mais elle est très belle et là aussi les structures de béton, ce béton brut a été restauré, c'est très très beau, on descend comme dans une crypte en fait.
Oui.
Là aussi on est... Et puis l'œuvre d'Abakanovic, je sais que je ne suis pas arrivé à vous convaincre, mais c'est une œuvre en fait...
Ah moi, si,
quand j'ai commencé à travailler là-dessus, en fait...
Nous vous écoutons,
justement. Pour vous faire une confidence, en fait, je ne voyais rien, je trouvais ça moche. Je me disais, mais Et maintenant, je suis assez époustouflé par le travail de cette femme. Magdalena Abakanowicz, née en 1930 en Pologne, famille aristocratique, père officier, aviateur dans l'armée russe, élevé dans un immense domaine au cœur de la forêt. 1939, la Pologne est envahie par les nazis et par les soviétiques. 1943, les nazis pénétrant dans le domaine familial tirent sur la mère d'Abakanowicz qui perd un bras sous ses yeux. Et dans son autobiographie, elle dit « Ce brassage est capable ». Je le vis comme un morceau de viande soudain inutile sur le sol et père arrête à l'hémorragie par un garrot de corde. Elle va passer sa vie à essayer de retisser quelque chose, retisser l'histoire de ce pays parce que 1946, c'est le coup d'État, les élections truquées et à ce moment-là, les soviétiques mettent la main, enfin les communistes et la Pologne, comme toute l'Europe de l'Est, bascule, elle est prise dans les taux staliniens. Magdalena Abakanowicz, par ses origines, fait partie des ennemis de classe, donc normalement elle n'aurait absolument pas pu s'inscrire ni travailler, et elle va réussir, derrière le rideau de fer, à imposer une œuvre qui, en plus, c'est le réalisme socialiste, donc il fallait que les œuvres fussent nationales dans leur forme et réalistes, j'allais dire soviétiques, et qu'elles soient socialistes dans leur contenu. Donc, vous voyez le carcan au sein duquel elle travaille, et à l'intérieur de ce carcan-là, et dans la pénurie organisée, elle va s'emparer de la matière textile et de la fibre, mais comme un sculpteur s'emparerait de la terre, et créer d'abord ces tapisseries, mais qui deviennent des tapisseries démentielles, qui peuvent faire 4 mètres de voire parfois 6 mètres de haut, et 4 mètres de large, et qui s'affranchissent de la simèse, et qui deviennent comme une espèce de monde intérieur. Et elle dirait elle-même, je compris que je pouvais faire des œuvres monumentales, des sculptures textiles en trois dimensions qui soient douces, pleines de secrets, qui me protégeraient comme un bouclier, qui seraient en même temps partie intégrante de moi-même. Et en fait, c'est quand elle déployait ces tapisseries sculptées, si je puis dire, dans l'espace, c'était comme un espace dans lequel il fallait pénétrer. Donc il y a plein d'associations psychosensorielles que vous pourriez faire. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus rentrer dedans. Mais l'idée, c'était que le visiteur puisse pénétrer dans ses cocons, dans ses matrices. Alors, vous pouvez tout imaginer, parce que ça dévoile une intériorité. Alors, on dit, oui, ça pourrait être comme des sexes qui soient exposés au grand jour, mais c'est un peu comme des cabanes, c'est un peu comme... C'est une matière organique. Et moi, ça me fait penser encore une fois au texte de Rilke, dans les lettres à un jeune poète, il dit à un moment, quand vous seriez entre les quatre murs d'une prison, vous auriez toujours ce vaste et inépuisable territoire de votre enfance. Mais c'est le territoire premier de la petite fille qui a été élevée dans cet immense domaine. Elle n'est jamais allée à l'école, il y avait des précepteurs, elle avait juste une sœur aînée. Et dans son autobiographie, elle dit, je compris très vite que ma naissance fut une immense déception pour mes parents qui attendaient un héritier. Donc, cet immense domaine où la petite fille est livrée à elle-même, où elle est dans une réceptivité, une sensorialité, elle met les mains dans la terre, elle se cache dans les troncs d'arbres, elle se fait des cabanes avec des feuilles. C'est tout ça qui ressurgit dans ces immenses structures textiles.
Mais malgré le fait qu'elle était une ennemie de classe, que sa famille était une ennemie de classe, ils ont pu survivre à l'occupation soviétique, ils ont pu survivre au régime. Comment a-t-elle pu mûrir sa vocation et son style ?
Parce qu'ils étaient... Une énergie hors du commun, un courage sans... Mais on voit un petit film, d'ailleurs il y a un tout petit film qu'on peut voir sur YouTube en 82, au moment de la loi martiale, où elle vient exposer à Paris, au musée d'art moderne. C'est Suzanne Paget qui l'avait vue à la Biennale de Venise en 80. On voit un tout petit film où elle s'exprime évidemment dans un français parfait. On voit que ce regard bleu d'acier absolument tranchant. Je pense qu'elle... Le miracle d'ailleurs, c'est que tout en étant derrière le rideau de fer, elle a exposé dans le monde entier ses tapisseries, enfin... Cette matière textile, ces abacans, on a appelé ça des abacans parce que...
Pourquoi ça s'appelle les abacans?
Parce qu'elle s'appelait Abakanowicz, c'est que quand les critiques ont vu ça, comme ça ne rentrait dans aucun cadre, ils ont dit, voilà, ce sont des abacans.
Mais comment a-t-elle eu l'idée de ce style particulier?
C'est quelque chose qui s'est imposé à elle. Progressivement, les tapisseries, cette matière textile qu'elle a vraiment travaillée absolument comme un sculpteur travaillerait la terre, elles se sont détachées progressivement des simèses. C'est elle qui à la fois les conçoit, les tisse, les assemble. En plus, On était dans une... L'homme soviétique, il y avait la décision, une collectivisation qui empêchait qu'on ait un espace propre. Il fallait, on avait grosso modo droit à 9 mètres carrés par personne dans des appartements communautaires. Mmh. Donc, elle aura... Finalement, elle va avoir un tout petit atelier avec son mari, elle a 18 mètres carrés. Et à l'intérieur de ces espaces extraordinairement exigus, elle va réussir à concevoir ses œuvres monumentales. Et en fait, elle a exposé pour la première fois à la Biennale de la Tapisserie à Lausanne en 62. Et c'était Biennale mis...
Régime l'a laissé sortir.
Elle représentait la Pologne. Mmh. Il y a une galeriste qui s'appelait Alice Paoli à Lausanne, qui était à l'initiative de cette Biennale de la Tapisserie avec l'URSA et son mari Pierre Paoli, qui va devenir sa galeriste. Et donc, elle va exposer ensuite dans toutes les grandes instances internationales, et elle obtiendra à chaque fois de haute lutte le droit de sortir pour aller montrer son travail, et à chaque fois elle reviendra. Elle n'est jamais passée à l'Ouest. Ce qu'elle aurait pu faire, elle ne l'a pas fait. Parce que d'abord, elle dit à un moment d'ailleurs dans son autobiographie, je me sentais très mal à l'Ouest dans un extrême confort et parfaitement chez moi en Pologne, il n'y avait rien.
Comment l'expliquer cela? C'est un attachement à sa terre natale?
D'abord, je pense qu'il y a un attachement à la terre natale, il y a un attachement à son... Et puis, je pense qu'elle a senti que cette tension, c'est l'ancrage de son œuvre aussi. Et c'est précisément dans la résistance... Et dans la lutte, elle dit à un moment, la lutte vous mène au-delà de vous-même. Et après, elle va passer à la figuration, si je puis dire, mais c'est toujours des fibres. C'est-à-dire que, parce qu'il faut six mois ou un an pour concevoir, tisser ces structures absolument énormes.
Il y a un lien particulier entre la Pologne et justement le textile en matière d'art?
Alors, il y a une tradition en Pologne. Mais je ne sais pas si elle s'inscrit vraiment dans cette tradition, parce qu'elle en fait vraiment autre chose. Ce qui est sûr, ce qui est polonais, c'est ce travail sur de la matière et de la matière première, ou le fait que dans la tapisserie traditionnelle, vous avez quelqu'un qui conçoit le carton, et puis vous avez l'hélicier qui...
Elle fait tout.
Elle fait tout. Oui, et ça c'est propre aussi à l'art de la tapisserie polonaise.
En tout cas, c'est une exposition qui est saluée par la critique. Beaucoup d'articles dans très nombreuses revues et qui, j'ai pu le constater moi-même, qui est salué aussi par les visiteurs. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux à venir visiter cette exposition.
Il y a quelque chose de très frappant parce que vous entrez vraiment dans un univers.
Ouais. Alors justement, donc c'est l'univers de Magdalena Abakanovic, la trame de l'existence, dont vous êtes le commissaire scientifique. Alors il ne nous reste qu'un peu plus de 3 minutes seulement en votre compagnie pour les parcourir et choisir, présenter quelques objets qui vous ont particulièrement frappé aux auditeurs de Radio Courtoisie afin de les intéresser à venir visiter cette exposition.
Je pense qu'il pourrait aller voir la dernière œuvre qui s'appelle Le Laboureur, où on voit sur une charrue, l'amorce d'une charrue sur un immense morceau de bois qui se termine par une pièce métallique, et il y a justement une structure textile, c'est un homme debout qui pourrait faire penser un peu à un Giacometti, qui est presque au bord de basculer. Et on se dit, au fond, qu'est-ce qu'il faut retourner inlassablement? C'est comme une vision, ça s'appelle jeu de guerre, c'est comme une vision de la condition humaine, c'est-à-dire, au fond, ce laboureur, qu'est-ce qu'il faut faire surgir du sol? Cette figure solitaire qui est au bord de cet instrument et qui est comme livrée, est-ce que l'humanité n'en finit pas d'essayer de labourer et de faire sortir, de faire germer quelque chose qui soit au-delà de la destruction? Moi, je pense que c'est une magnifique... Et encore une fois, c'est pas un art illustratif, c'est pas du tout didactique. Mais quand on est confronté à ça, on sort de là en étant... on est saisi. Et on rentre vraiment dans une... Je pense qu'au fond, ce qu'elle interroge, elle dit, qu'est-ce que c'est que notre monde intérieur? Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête? Quel est le périmètre de notre monde intérieur?
Vous proposez 6 sections différentes, hein, en effet. Vous avez commencé par la fin.
par la fin, du début à la fin, il y a une logique. Il y a une logique. C'est la trame. D'ailleurs, la trame de l'existence, c'est elle. C'est son titre. Hein, c'est elle qui le dit.
Oui. J'étais frappé par la section 5, si vous me le permettez, où elle dit, on la cite, hein, « J'ai vu enfant la façon dont les foules vénèrent sur commande et haïssent sur commande. » Et là, c'est là où, dans cette section, sont proposées justement des foules.
Les foules.
Mais c'est là où on sent l'influence, en effet, du régime sous lequel elle a vécu.
Mais
elle,
on pourrait penser au tombe du Shaanxi, et puis on pourrait penser, effectivement, elle dit d'ailleurs, il fallait que j'interpose entre la foule et moi quelque chose qui me protège, et ces foules, c'est un peu comme des troncs d'arbres, c'est un peu comme une nature protectrice. Mais ils sont tous sans visage. Alors, est-ce que ce sont des fantômes? Est-ce que c'est... Chaque visiteur est renvoyé à ses propres espoirs ou ses propres terreurs.
Et puis aussi, il n'y a pas que des sculptures, il y a aussi des dessins.
Magnifiques
dessinatrices. Des encres noires et gouaches aussi que vous proposez dans cette section 4.
Magnifiques dessinatrices avec entre autres ces visages, ces faces qui ne sont pas des visages, et c'est comme le voile de Véronique. Mais là, c'est comme l'apparition christique.
Jérôme Godot, malheureusement, nous devons...
Eh bien, merci Thierry.
Merci beaucoup merci de d'être votre venu nous présenter Bourdelle, ce musée magnifique, il faut s'y rendre. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, en même temps, c'est l'occasion de découvrir une artiste différente, une grande artiste polonaise, Magdalena Abakowicz. La trame de l'existence, c'est au musée Bourdelle, donc rue Bourdelle, à Paris, à côté de la gare de Montparnasse, jusqu'au 12 avril 2026. Merci encore à vous, Jérôme Godot, et à très bientôt.
Eh bien, remercions-nous mutuellement.
Yeah.